Mesdames et messieurs, merci beaucoup à Bénédicte Savoie et à Fel Winsar d'avoir organisé ce colloque. Merci beaucoup de m'avoir invité à modérer cette session, quoique ce soit très très mal me connaître que de penser que je puisse modérer quoi que ce soit. Je vais donc plutôt entreprendre de l'immodérer et de vous poser et de nous poser cette question qui est celle donnée par les organisateurs, Museum or Not Museum, cette question un tantinet shakespearienne qui déroute nos attentes, puisque on ne s'était pas forcément préparé à poser cette question. Mais diable, où iraient les objets s'ils n'allaient pas dans les musées, et où les prendrions-nous si on ne les prenait pas dans les musées pour les restituer ou pour les translocaliser, pour les amener ailleurs? Et si cette question se pose, c'est parce qu'il faut également se poser la question de ce qu'un musée répare, de ce qu'un musée efface, de ce qu'un musée guérit. Et par conséquent, derrière cette question à la fois déroutante et anodine, il y a la question de la violence initiale qui préside à cette question des restitutions. Violence de la prédation coloniale, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, consistant à piller des palais de souverains, à piller des collections qui avaient été constituées par des personnes à la fin du XIXe siècle dans des pays d'Afrique. Violence consistant dans certains cas aussi de la part de chercheurs des années 10, 20, 30, 40 à fouiller des sites archéologiques, mais à les fouiller à la baïonnette dirigée contre les ouvriers, mais également physiquement le sol des sites archéologiques. Violence également, violence inaugurale de la relation coloniale, mais violence qui se perpétue, qui se duplique également dans de multiples façons. D'abord dans le déni d'histoire, qui est très souvent opposé, comme vous le savez, et comme je suis payé pour le savoir, à l'égard de l'histoire de l'Afrique en général, mais également qui s'exprime à travers de multiples ruses consistant à ironiser devant l'exigence de restitution. Et de la même façon qu'un enfant qu'on oblige à restituer un objet à quelqu'un va trouver tous les moyens de casser l'objet, de désémantiser l'objet, de le vider de sa signification, de le vider de toute signification pour lui et pour l'autre, avant de rendre un objet vide, creux, mort, éteint, désémantisé. De la même façon, méfions-nous de cette tentation qui peut être la nôtre de casser l'objet que nous prétendons rendre en ironisant, par exemple, sur la signification des musées. On a entendu, pas ici, mais on entend dehors des réflexions, mais enfin, le musée est un objet daté, d'où cela peut-il donc leur sortir de réclamer des restitutions d'objets à des musées? Relativiser l'universalité de la curiosité pour des objets d'art ou pour les objets de l'autre, ironiser sur les métamorphoses de l'objet, ironiser sur son esthétisation. On a lu aussi récemment, on a entendu dehors des gens dire « mais enfin, souvenons-nous que si ces objets ont une valeur, c'est parce que nous, la leur avons donné cette valeur, parce que l'Occident a construit une valeur esthétique à ces objets. » On a entendu également des voix dire que si ces objets étaient dotés d'une valeur ethnique, d'un cartel qui, en quelques mots, à la base de la vitrine, peut, en quatre mots en général, la fonction, le nom de l'ethnie, le pays actuel et la date, peuvent réduire à aussi peu de choses la vie d'un objet, c'est bien parce que la colonisation était passée par là, c'est bien parce que nous étions passés par là et qu'en quelque sorte les restituer ne servait à rien puisque nous ne rendrions en somme que des objets vides. D'ailleurs, toutes ces formes d'ironie, je vois des formes de ruse qui perpétuent une violence et c'est bien de cette violence en rapport avec le musée qu'il faut interroger. Pour cela, je vais passer la parole aux trois conférenciers de cet après-midi. D'abord, Simon Djami. Simon Djami est commissaire indépendant. Il est professeur et critique d'art. Il est basé à Paris. Il est cofondateur et éditeur en chef de la fameuse Revue Noire, publication d'art contemporain. Il a été le directeur artistique de la Biennale de la photographie africaine de Bamako de 2001 à 2008 et commissaire du premier pavillon africain à la 52e Biennale de Venise en 2007. Il a également réalisé de nombreuses expositions d'art africain, en particulier Africa Remix, qui a circulé entre 2004 et 2007. Simon, je vous passe la parole.
Oui, Africa Remix fut une exposition diasporique. Je n'avais pas l'intention de parler de diaspora, mais je vais quand même vous faire une confidence. J'étais plutôt, à voir les modalités, j'étais plutôt pour la restitution. Mais depuis que j'ai découvert que les objets qui circulent en Occident servent à donner une meilleure image aux immigrés, je vais peut-être réfléchir. Ah, il me semble que la proposition shakespearienne est assez intéressante puisqu'elle pose d'un côté le musée, de quoi s'agit-il, et de l'autre côté le contenu, parce que le musée, jusqu'à un nouvel ordre, est un contenant. Alors, j'aimerais me poser quelques questions sur le contenu du musée, et ensuite on verra peut-être si... Là est la question. Alors, première chose, j'aimerais bien... Ça renvoie à cette histoire de musée, comme ça. J'aimerais bien, tous ensemble, que nous nous mettions d'accord sur une chose, de l'universalisme, faisons table rase. Oublions cette affaire... Oublions d'ailleurs un tas d'affaires, essayons de nous livrer un exercice, et c'est Barthes qui disait ça, j'ai essayé, je ne sais pas si ça a bien marché. Il disait que pour bien regarder une photographie, il faut avoir les yeux fermés. Et il me semble que nous avons les yeux trop ouverts, et que ce que contiennent nos yeux sont des échos, des réminiscences, des... Bref, la charge de nos yeux nous empêche de voir ce qui est devant nous, et nous fonctionnons toujours en référence. Que ce soit en référence aux références ou contre les références, nous sommes toujours piégés par le principe de la référence. Donc si nous parlions de tout cela les yeux fermés, peut-être cela nous permettrait-il d'imaginer d'autres possibles. Il y a quelques années, une de mes amies qui était directrice d'un musée à Francfort, musée de l'homme, une espèce de musée de l'homme, voulait absolument que je vienne faire une résidence là-bas. Je lui ai dit, je ne suis pas un artiste, je suis un homme sans métier, mais je me suis mis à réfléchir à ce que je pourrais bien faire dans une résidence là-bas. Et ce que j'avais décidé alors, mais je n'ai pas pu le faire évidemment, c'était de choisir quelques objets qu'il y avait dans son musée et de leur refaire une biographie. Parce qu'après tout, elle me l'avait dit elle-même, que les recherches et les données qu'ils avaient sur les objets étaient un peu maladroites. Parfois, ça avait été récupéré par des missionnaires, avec Dieu et toute la clique. Parfois, ça avait été récupéré par des militaires, etc. Donc, les notes qui étaient là valaient ce qu'elles valaient. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas substituer une fiction à une autre fiction ? Au moins, cette fiction-là serait la mienne. Donc, il me semble que c'est l'exercice auquel nous devons nous livrer. Il s'agit de remplacer une fiction par une autre. Et pour que cette fiction autre soit valable, il faut qu'elle évite les écueils de la sémantique. Il faut qu'elle évite d'employer des mots qui sont tellement chargés d'histoire qu'il est difficile de les détourner. Employer d'autres mots, si nous en avons. Je suis assez frappé que dans tous les débats que j'ai pu entendre sur rendre ou ne pas rendre, toute la parole a été française. Quand je dis française, je parle au sens du mot. Et quand ce monsieur qui n'a pas dit que des âneries, Hegel, disait « c'est dans les mots que nous pensons », il me semble essentiel de se poser la question du mot que nous employons. Si c'est dans les mots que nous pensons, quel peut être l'état de notre pensée? Quel peut être l'état de ma pensée à moi qui parle de fermer les yeux, de penser à autre chose lorsque je m'adresse à vous en français? Cela dit, un auteur haïtien avait dit un jour, lorsqu'on lui reprochait l'emploi de cette langue, il disait « j'ai pris la langue française, je lui ai fait l'amour et j'en ai fait un bâtard ». Il suffit de se rendre n'importe où en Afrique pour comprendre que le français qui y est parlé est un français habité. Il semblerait que dès lors que l'on entre en académie, le français devient plus restrictif. Ce n'est plus le nouchi, ce n'est plus le camfranglais, ça devient quelque chose de beaucoup plus étrange. Ma communication, puisqu'il fallait lui donner un titre, je l'ai appelée « Les statues meurent aussi ». Et donc ce que je vous proposerai à la fin, c'est peut-être non pas un musée, mais un vaste cimetière ou un crématorium. Nous verrons, mais ce sera au choix. Évidemment, nous leur donnerons des noms appropriés. Les statues meurent aussi, comme vous le savez, est un film de Chris Marker et d'Alain Resnais. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que ce film a été produit par Présence Africaine, qui avait été créé par Alioune Diop. Donc voilà, des histoires qu'il serait intéressant d'analyser. Voici un Sénégalais qui crée une maison qui s'appelle Présence Africaine, qui a un projet, qui est de montrer comment la France, comment l'Occident s'est emparé de tout ce... J'hésite à dire patrimoine parce que je suis un peu féministe, je préférais dire matrimoine. Donc comment ils sont emparés de tout ça? Ils ont choisi les jeunes cinéastes, ils n'avaient pas fait grand-chose, qui à l'époque leur paraissaient les plus probants. Alors ces braves garçons, je les appelle garçons, je n'ai même pas encore l'ombre d'être né, ont fait leur film. Et alors l'autre histoire, donc, c'est un film assez... C'est pas un film qui faisait l'éloge de la colonisation, évidemment. Il faisait parler les masques, il disait leur émoi, leur souffrance. Et ce film a été interdit par la France, l'État français, interdit pendant de nombreuses années. Senghor, qui était ministre à l'époque, a eu beau intervenir, il n'était pas question de laisser voir ces choses-là. Alors, la chose amusante, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que ni Alain ni Chris n'étaient africains. Donc après tout, on aurait pu leur laisser le passe-droit. Mais j'imagine que l'État colonial se disait que si Alioune Diop était derrière l'affaire, c'était pas forcément pour chanter les louanges de la République. Donc les statues meurent aussi. Et il me semble que c'est un élément que nous avons évité. Nous parlons de diaspora, nous parlons de ceci et de cela. Il me semble que dans la diaspora, il y a une renaissance. Je veux dire, Michael Jackson est un... Bon, je prends un mort, mais qu'importe. Michael Jackson est un être diasporique. Il s'est refabriqué, il est devenu autre chose. Alors qu'il ne me semble pas qu'en changeant de statut, les objets aient changé. Je veux dire, le masque baoulé n'est pas devenu métisse, plus clair, n'a pas eu les yeux bleus. C'est toujours le masque baoulé. C'est simplement son sens qui a changé. Et c'est sans cela que je prétends que ces objets sont morts. C'est-à-dire que la vie qu'ils se sont mis à vivre dans ces endroits exotiques, qui était le British Museum, ou le palais du Trocadéro, etc., étaient comme autant de prisons, autant de cimetières, où ils étaient dépourvus, dépouillés de leur essence, de leur identité. Ils en ont pris d'autres. Ici et là, au gré des gens qui les qualifiaient. Ils avaient perdu définitivement ce qui faisait qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Donc, en ce sens, ils étaient morts. Morts pour leur pays d'origine, morts pour ceux qu'ils avaient fabriqués, puisqu'ils ne signifiaient plus ce qu'ils étaient censés signifier. Et comment ces morts peuvent-ils revenir? Il y a le flux et le reflux qui étaient chers à Pierre Verger, mais là encore, le flux et le reflux parlaient plutôt de cette affaire diasporique qui fait qu'on change et que ce qui revient n'est pas le même, contrairement à ce que nous disait Frédéric Nietzsche. Et donc, ces morts qui reviennent, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a déjà une chose qui me gêne dans cette histoire de restitution, c'est la largeur, la largesse, la grandeur de la France. J'ai toujours été un peu gêné par la grandeur de la France. C'est un petit peu comme quand la France a instauré la fête de la célébration de l'abolition de l'esclavage. C'est formidable quand même. Parce que pour que l'esclavage fût aboli, il a fallu qu'il soit établi. Et donc c'est un petit peu comme une espèce d'auto-congratulation. Et donc voilà, ça me gêne, mais il y a tellement de choses qui me gênent. Et donc ces objets qui vont être restitués, j'aurais préféré qu'ils soient réclamés. Il y a ainsi une pièce de théâtre de mon excellent camarade, paix à son âme, Bernard Michael Tess, qui s'intitulait, qui s'intitule encore, « Combat de nègres et de chiens ». Vous n'avez pas vu la pièce peut-être, je vous la raconte. Tout se passe quelque part en Afrique, il y a une concession comme ça, on sent qu'il se passe des choses étranges dans cette concession. Cette concession est totalement fermée au monde qui l'entoure. J'imagine que les fromages viennent par la valise diplomatique, etc., etc. Bref, aucun contact. Si ce n'est quelques ouvriers africains qui viennent travailler dans cette concession. Or donc, voici que patatras, un accident, l'un des ouvriers meurt. Et puis, on ne sait pas trop ce que l'on fait de sa dépouille. Et arrive donc un monsieur africain, apparemment, qui va venir mettre le trouble dans les Andins, parce qu'il vient en disant je viens récupérer le corps de mon frère. Et là, ça pose problème à tout le monde, parce que le corps du frère, ils ne savent plus où ils l'ont mis. Elle explique que le frère est mort, certes, mais son âme est en train d'errer, et il doit être enterré. Il faut qu'il soit enterré dans sa terre natale, selon les rites et selon les usages de sa famille. Et tant que cela ne sera pas fait, rien ne se produira. Donc, il me semble que cette histoire de restitution, je ne dis pas que cela ne s'est pas fait, mais j'aurais préféré que les nations africaines, comme une seule, vinssent réclamer le corps de toutes ces choses qui ont été abandonnées, détournées, etc. Et ensuite, en face ce qu'elles veulent, cette idée de musée, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je suis entouré de spécialistes. C'était quoi, au fond ? Parle de régénérer les choses, etc., etc. L'invention du Louvre, c'est quoi ? C'est pour montrer comment Napoléon est fort. C'est pour montrer toutes les richesses qu'on a ramassées et prises ailleurs. C'est un coffre-fort, à la base, un musée. Alors aujourd'hui, nous disons musée, musée. Évidemment, ça a évolué. Mais la question que je me pose... contrairement aux amis de Marine, je suis sûr qu'il y en a là-dedans, la question que je me pose, c'est pas de savoir s'il y a des musées en Afrique ou si l'Afrique est capable de retenir ces objets. Évidemment, l'Afrique doit récupérer ces objets et en faire ce que bon lui semblera. Bon, là, c'est une autre question. Mais la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce que, si jamais ces objets par je ne sais quel miracle, le fait qu'ils retournent sur la terre natale, si tout d'un coup ils avaient une vie nouvelle, quelle serait leur place ? Parce que je vois pour ces objets le musée occidental comme une prison. Les masques dansaient, les masques chantaient, les masques s'exprimaient, les masques vivaient. Les masques faisaient partie d'une cosmogonie, faisaient partie d'une tradition, faisaient partie d'une parade. Et voilà donc, il me reste 3 minutes, et voilà donc que les masques sont pris et sont enfermés dans des cages de verre, sont enfermés dans des lieux climatisés, deviennent précieux, etc., etc. Une mort atroce, n'est pas si atroce que ça, puisque cette mort-là sert à rendre les migrants plus sympathiques et plus beaux. Mais c'est une mort. Et donc la chose qui me glace le sang, c'est quand j'entends les uns et les autres parler de fabriquer des musées en Afrique. La question n'est pas celle du musée. La question est, qu'est-ce qu'on fabrique et pourquoi faire ? Peut-être que certains de ces objets, si tout d'un coup une vie nouvelle leur était insufflée, voudraient être brûlés sur la terre de leurs ancêtres. Peut-être que d'autres voudraient réapprendre à danser. Peut-être que d'autres, etc., etc. Mais partir du principe qu'on va retirer un prisonnier de sa prison pour lui fabriquer une autre prison, qui sera certes tropicale, qui sera certes pleine d'épices et pleine de saveurs, me paraît une incongruité monumentale. Alors, musée ou pas musée, là est la question et je n'ai pas de réponse. Merci.
Merci beaucoup pour ce nécessaire exercice de consistant à incongruiser la discussion et poser la question de savoir si le musée est tout simplement la bonne prison pour y remettre des objets qui aspirent à être vivants ou à revivre. Je vais immédiatement passer la parole à Kader Atia, qui est à ma droite. Kader Atia est né en 1970 à Paris de parents algériens. Il utilise l'expérience de ses différentes cultures pour nourrir l'approche interculturelle et interdisciplinaire de son travail. Il explore depuis de nombreuses années le point de vue des sociétés sur leur propre histoire, notamment en ce qui concerne les privations et les répressions. Ses recherches ont conduit Kader à la notion de réparation, un concept qu'il a développé philosophiquement dans ses écrits et symboliquement dans son œuvre. Kader, je vous passe la parole. Je demande, s'il vous plaît, à ce qu'on baisse légèrement la lumière.
Merci beaucoup. Merci à tous, merci Bénédicte Savoy, merci Faye Lewinsar, merci Soleiman Bachir Diagne et à tous les participants qui sont ici. Merci Simon pour cette présentation. Merci à toi, je vais commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La présentation était très bien, elle a permis de contextualiser mon champ de recherche et de réflexion qui est celui de la réparation. Alors, je me retrouve dans ce colloque, mais finalement les échos que j'entends correspondent à ce sur quoi j'ai travaillé. Qui est effectivement la question de la restitution. La question de la restitution du patrimoine des cultures hier colonisées est une succession sans fin d'autres questions sous-jacentes et complémentaires qui pourtant ont toutes une seule et même matrice. De quelle éthique ces questions sont-elles les inévitables déclinaisons ? Probablement d'un fondamental et irrévocable pourquoi. Car encore et surtout aujourd'hui, des réticences persistent, des récits populaires aux arcanes du pouvoir culturel. Il est donc nécessaire de sans cesse rappeler que restituer quoi, quand et comment suivent la raison inéluctable du pourquoi restituer. Deux mots concepts émergent de cette question, réappropriation et réparation. Alors que le premier, tellement utilisé, ne s'appartient plus, le deuxième, la réparation, est un chantier permanent. Le concept de la réappropriation n'a cessé d'être vidé de son sens au gré des modes et des disciplines des discours postcoloniaux, au point d'en avoir perdu sa raison d'être. C'est pourquoi il faut toujours rappeler la causalité qui lui a donné le jour. C'est parce qu'il y a eu dépossession qu'il doit y avoir réappropriation. C'est cette légitimité originelle de la réappropriation qui m'a aidé à comprendre que l'essence même de la réappropriation, c'est la réparation. J'ai pendant des années, particulièrement depuis le début des années 90, été sensible à des processus poétiques de recyclage d'objets abandonnés. Puis plus tard, lorsque vivant au Congo-Brazzaville, j'observais avec émerveillement d'autres formes de recyclage. Une mimétique savante qui transforme le reste d'un élément de la technologie moderne en un autre objet usuel. Une grande boîte de conserve en instrument de musique. On peut avoir le diaporama là. Une bouteille de whisky devenue une kissib à Congo, ce qu'on appelle vulgairement fétiche en fait. Un masque d'Ahn de Côte d'Ivoire recouvert du pantalon rouge d'un tirailleur sénégalais qui, revenu parmi les siens de l'enfer de la Première Guerre mondiale, était perçu comme un demi-dieu. Vous verrez cet objet plus tard, ce masque couvert de coris, soyez attentifs, il est entouré d'un pantalon rouge de tirailleur. Des formes de réappropriation culturelle en écho au concept de l'anthropophagie culturelle chère au Brésilien Oswald de Andrade, pour qui la culture colonisée renaissait dans la mimétique en vomissant la modernité colonisatrice qu'elle avait cannibalisée. Mais un jour, un objet allait me faire passer des signes de réappropriation culturelle à la réparation. Le diaporama se déroule parallèlement à la lecture, c'est à vous de vous refaire le puzzle, dont vous allez voir, c'est assez excitant. Cette découverte fut un pagne en raffia de la société Kuba du Congo-Kinshasa, qui stigmatise à lui seul toute la puissance et la complexe relation réappropriation-réparation. Cet objet m'avait été offert par Armand Conga, un ami congolais de Brazza, comme cadeau de départ après mon premier séjour de 3 ans à Brazzaville. Il portait de manière assez remarquable une dizaine de petites pièces d'une toile s'apparentant à un tissu occidental au motif de pieds de poule ou de toile de Vichy. Le tout sur un large et somptueux pagne de raffia écru, soigneusement brodé. La dissonance esthétique m'avait, comme l'avait bien imaginé mon ami Armand, immédiatement séduite. Pendant des années, ce pagne a décoré mon atelier, jusqu'au jour où, étant obligé de le décrocher du mur pour un déménagement, je découvrais que derrière chaque petite pastille, il y avait un trou. Un trou généré probablement par des insectes et des petits rongeurs, bref, par l'usure du temps. La présence inhabituelle de ces dizaines de petites rustines n'était donc plus celle d'une décoration sophistiquée, mais celle d'une réparation tout aussi inattendue, puisqu'elle intégrait un élément textile provenant probablement de la chemise d'un colon pour couvrir des trous d'usure de son chacocote. Ce tissu, ce pagne s'appelle un chacocote. Il est en général porté par les princesses du royaume Kuba. Le choix des motifs et la façon dont l'application précise de ceux-ci par la broderie intègre l'ensemble de la composition avec un art de l'équilibre des contrastes signe un parfait geste double dans lequel l'éthique et l'esthétique se mireraient en un dialogue que seul le plaisir du spectateur attentif pouvait percer. En effet, si quelqu'un avait recouvert soigneusement ces dizaines de trous du côté de la partie visible du tissu, celle exposée à la vue, c'est sans aucun doute pour l'améliorer physiquement, mais c'est aussi et peut-être surtout pour lui faire raconter une autre histoire. Très important, cette notion d'histoire, de réappropriation de l'histoire. Que ce soit d'un point de vue de la pensée ou de l'action, l'énergie motrice de la réparation, celle qui la meut de l'intérieur via une poussée instinctive, se retrouve dans une infinité de natures de l'existence. De la physique quantique à la pensée politique ou artistique, l'équilibre de la relativité générale qui succède au chaos du Big Bang, le paradoxe des trous noirs qui, comme nous l'explique le physicien Leonard Susskind dans The Black Hole War, la guerre des trous noirs, publié en 2008, répare l'univers plus qu'il ne le détruise. La réparation est un mouvement incontournable de l'existence qui en suture les blessures qui la structurent. Elle nous suture et nous structure physiquement et immatériellement. Mais il est impossible de concevoir la réparation sans la blessure. Il y a toujours une blessure quelque part s'il y a eu réparation. Elles sont liées à jamais dans une gravitation qui les fait tourner en boucle, l'une poursuivie par l'autre. Tout agencement ou instinct de réparation, je ne sais pas si en français on dit ça, mais en anglais on dit « agency », donc vraiment cet instinct mu par je ne sais quoi, donc tout agencement ou instinct de réparation, qu'il soit naturel, comme la sélection naturelle, par exemple, chère à Darwin et Wallace dans leur théorie de l'évolution des espèces, ou culturel, présente physiquement sur les objets d'art anciens, profanes ou sacrés, ou encore intellectuellement, dans tout projet politique, incarne la transcendance de la blessure. Lorsqu'il y a 10 ans, je me suis intéressé à la relation entre les blessures réparées des objets traditionnels des cultures anciennes et les réparations des visages blessés des soldats de la Première Guerre mondiale, les gueules cassées, j'ai vu miroiter 2 concepts de la réparation, le moderne occidental et celui des cultures non occidentales anciennes. Le mythe moderne du parfait, celui obsédé par la disparition de la blessure reposant sur le pouvoir de la science et celui que cette même pensée moderne occidentale exclut ou relègue dans le brouillard de l'à-peu-près. L'à-peu-près des cultures autres, où le bon sens, celui où l'éthique de la réparation d'une chose est corrélatif à l'esthétique du résultat. Celui où la blessure non seulement reste visible, bien que réparée, mais donne également à l'objet blessé une nouvelle existence, une nouvelle vie, il en a été question tout à l'heure. Celle d'un temps autre, une temporalité autre, que celui qui précède l'accident. Un temps qui garde les signes de la mémoire de l'objet d'avant la blessure, au lieu de le nier en l'effaçant à jamais, comme les sciences modernes cherchent à le faire obstinément sans jamais y parvenir, bien que prétendant le contraire. Car on ne peut pas revenir à l'état original de la chose blessée, pour la simple et bonne raison que la blessure est une écriture indélébile mais invisible. Scars have the strange power to remind us that our past is real. Les cicatrices ont l'étrange pouvoir de nous rappeler que notre passé est réel, comme Cormac McCarthy. L'obsession de l'effacement de la blessure, dogme absolu de la réparation moderne occidentale que j'appelle le mythe du parfait, est sans nul doute la part la plus importante du fantasme de l'effacement de l'histoire d'un objet, d'un individu ou d'un groupe social. Elle est la négation du temps qui passe. Ce fantasme moderne qui se manifeste dans la supériorité scientifique de pouvoir réparer en revenant à l'idée de la forme originale est en fait celui du contrôle du temps. Il anime la croyance la plus aveugle de la modernité, celle de la corrélation entre le temps et le pouvoir politique et économique, le capitalisme dont nous subissons tous les jours les offres de ralentir le temps, voire de le reculer. De l'industrie cosmétique anti-vieillissement à la mobilité permanente, à travers laquelle notre ère se transforme, les exemples ne manquent pas. Mais si la raison fondamentale de cet obsessionnel effacement de la blessure propre à la réparation moderne efface l'histoire de la chose blessée, le temps de l'accident, c'est sans doute pour en réécrire une autre histoire. Et dans ce cas, dans le cas du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il est un de ces aspects qui est particulièrement pertinent, car il ne relève pas nécessairement de la blessure physique, mais plutôt immatérielle, où s'accumule, dans une sédimentation d'affect, les héritages du colonialisme. Le mal-être et parfois la douleur ressentie par l'absence des objets traditionnels soustraits de leur culture par des puissances étrangères politiques, religieuses et intellectuelles qui les occupaient perdurent aujourd'hui dans la psyché des peuples dépossédés. Des grands récits nationaux aux secrets des familles, cette absence s'est mue en une multitude de blessures inconscientes jamais réparées. Elles se sont installées d'abord à travers le colonialisme, en un traumatisme profond, puis totalement refoulées pendant la période post-coloniale, supplanté par les syndromes du discours d'une modernité à rattraper à tout prix. Ce traumatisme, c'est l'humiliation. L'humiliation de l'Occident moderne qui débarqua d'abord avec la puissance des canons pour ensuite développer ses colonies. Humiliation qui s'est ensuite enracinée dans le quotidien de la colonisation et ramifiée dans celui de la coopération pour continuer de s'étendre jusqu'à aujourd'hui dans la psyché de tous, entretenue par la présence militaire et monétaire de l'ancien colonisateur en Afrique de l'Ouest. Le professeur Momar Gueye, grand psychiatre sénégalais de l'hôpital de Fan, m'expliqua lors d'une des nombreuses interviews que j'ai réalisées avec lui, je cite, « Lorsque le psychiatre blanc arrive en Afrique, il voit le nègre sous un baobab, hilar, jouant du tam-tam, et pense donc, comme il a l'air toujours heureux, qu'il n'a pas d'inconscient. » Fin de citation. C'est évidemment parce qu'il ne cherche pas plus loin dans le village et qu'il passe à côté du rôle essentiel du marabout et du coup greffe le raisonnement européen sur des cultures qui lui échappent. Une autre citation, « Nous avons vendu l'Œdipe aux colonisés », disait Jacques Lacan. Par l'Œdipe, il sous-entendait l'introduction de la culture occidentale et de la science moderne et ses effets subjectifs sur les populations colonisées. Cette certitude de supériorité sur la psyché des peuples qu'il colonisait s'inscrit dans la logique avec laquelle le colonisateur condamnait l'ancien, le traditionnel et le monde de l'invisible. La blessure qui s'opère alors entre le patrimoine culturel traditionnel et les peuples des deux camps s'articule dans un théâtre d'humiliation où la science tenta de s'imposer à la magie, générant des réactions de peur qui déjà signifiaient les premiers signes de réappropriation culturelle. En effet, très vite, certaines cultures, comme par exemple les Tchokwe d'Angola et aussi du Congo, mais surtout très présents en Angola, vont cannibaliser les formes les plus terrifiantes de la modernité technologique envahissante. Il y a par exemple en Angola le rituel des femmes Tchokwe, culte voué à la locomotive à vapeur, qui se réalise par une danse au cours de laquelle les femmes tiennent un panier de divination derrière elles et un autre devant elles, après avoir aligné des troncs de palmiers sur le sol pour simuler les rails. Elles font ainsi la danse du train en les chevauchant sur plusieurs mètres. Rituel pour apaiser l'esprit qui anime cette machine bruyante et puissante, comme l'explique très bien le professeur Manuel de Oliveira dans le film que j'ai réalisé il y a 4 ans sur la restitution des objets de Body's Legacy. La blessure qui se produisit lentement mais profondément à travers l'hégémonie de la technologie sur les sociétés colonisées par l'Occident est toujours ouverte. Pour la simple raison que, malgré la globalisation du capitalisme et de la science, perçue comme moteur absolu du progrès, jamais les croyances populaires anciennes ne cessèrent. Au contraire, elles renaissent sans cesse par des circuits de détours, comme c'est le cas aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, dont les outils, téléphones portables et autres appareils s'apparentent aux masques et aux fétiches d'hier, aux nkissi d'hier. Comme en linguistique, Mme Cassin tout à l'heure parlait du poids des mots, de l'importance des mots, et ça m'a fait penser à ce passage, comme en linguistique, lorsque l'on dissèque les mots et leurs fonctionnalités, c'est aussi l'usage que l'on fait des objets qui leur donne leur signification. Leur signification sociale, culturelle et historique. Elle résulte de la corrélation entretenue par un objet et tout un corpus de données culturelles, historiques, politiques et économiques qu'il rappelle dès lors qu'on le pense. Or, si les objets déportés pendant une longue période d'exploitation des peuples qui les ont conçus et utilisés ont subi un autre récit historique, en plus du déni, de la blessure, du crime, du déracinement, la promesse et l'acte de leur restitution les conditionnera dans une énième écriture de leur histoire. Comme le dit le professeur Adak Kouassi, anthropologue à l'université d'Abidjan, là encore dans une interview, je cite, « Nos objets absents qui sont en Occident sont devenus blancs. Les blancs leur ont greffé une histoire pendant plus d'un siècle. Avant de les récupérer, c'est quelqu'un qui a à peu près, qui se plaint par exemple d'avoir eu pendant une quinzaine d'années uniquement 5 doctorants par an, donc un manque d'intérêt pour sa discipline. Je répète. Les Blancs leur ont greffé une histoire pendant plus d'un siècle, je le cite, « Avant de les récupérer, nous devons en réécrire l'histoire de leur présence passée et même de leur absence actuelle. Et ce, avant même ce rituel du retour, imposé aux objets comme réparation de leur absence, car retourné dans son pays natal, l'objet sera vu et lu à travers son ultime rituel, celui de la restitution. Un rituel de paix, certes, un rituel de paix, mais qui n'apportera jamais la trace ultime d'un dernier récit. Excusez-moi, c'est ma conclusion, donc je reprends. Un rituel de paix, certes, mais qui portera à jamais la trace ultime d'un dernier récit qui lui a été greffé par l'homme blanc, qui a décidé de rendre par un geste inhérent à cette spécificité moderne occidentale pour laquelle réparer signifie effacer la blessure. En bref, revenir à l'état original d'avant la blessure. Alors, l'objet original restitué l'est-il vraiment ? Lorsqu'il incarne la fonction nouvelle de témoin ultime du rituel politique de la réparation de sa dépossession. Rituel ordonné, en plus, par la main même du décideur d'hier. L'année dernière, à la fin d'une interview réalisée avec l'archéologue grec Dimitri Plantsos, sur la question de la restitution des frises du Parthénon présentes au British Museum, pour laquelle il a lutté toute sa vie, il conclut par, je cite, « En somme, voyez-vous, nous espérons que les Anglais décident de nous les rendre pour pouvoir leur dire « nous n'en voulons pas ». Merci.
Merci beaucoup pour cette communication. J'avais pour instruction d'appuyer toutes les minutes sur le clic. Je ne sais pas si j'ai rempli mon office. On s'arrêtera sur cette image-là, en tout cas. Bon, merci beaucoup de nous avoir rappelé qu'il y a deux sens au mot réparation, hein, et pour avoir comparé la réparation de l'absence de l'objet avec la réparation que peut connaître l'objet dans sa matérialité. Et pour nous avoir rappelé également que la réparation n'est pas une guérison, elle ne cherche pas à effacer la blessure, mais au contraire à la réinscrire, à réécrire, à en faire en quelque sorte une autre histoire. Je passe la parole à Alain Godenou, historien de formation. Il a été conservateur du Palais Royal de Porte-Novo au Bénin, coordinateur de programme au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, l'ICROM. Il a également assuré la coordination du projet de restauration des palais royaux d'Abomey. Et depuis 1997, il est le directeur de l'École du patrimoine africain. Merci beaucoup, Alain.
Merci, bonjour, bonsoir. Je voudrais évidemment... Oui. Bonjour, bonsoir. Je voudrais évidemment dire un grand merci à Bénédicte Savoie et à Feldunsa, évidemment pour leur apport et pour m'avoir invité à ce colloque dans cet endroit qui m'émeut beaucoup. Et Je voudrais juste faire un témoignage. C'est ce que j'ai dit quand j'ai été contacté sur la vie, de ce que c'est que vivre avec le patrimoine, du point de vue de ceux qui y ont travaillé, qui y travaillent, et qui passent l'essentiel, en quelque sorte, de leur vie de travail. Et je vais vous parler donc de ce qu'on ne dit pas souvent. Et je vais vous parler donc de ce qu'on ne dit pas souvent, hein, et de trois expériences que j'ai eues dans mon parcours de conservateur, qui a commencé en 84. En 2005, il y a eu au Cameroun un grand incendie dans la région Bamileke. Le palais du sultan de Bamoun, Bandioune, a brûlé. Et dans ce palais qui avait brûlé, surtout la case qui était la case où étaient gardés les objets sacrés. Grand témoi dans la communauté bamileke, du monde entier, hein, de Bandioune même, jusqu'à Paris, à New York. Et on me demande, en tant que directeur de l'école du patrimoine africain, de venir un peu expertiser, voir ce qui peut être fait à Bandioune, dans l'Ouest Cameroun. Je pars donc, je suis reçu par le ministre de la Culture, qui à l'époque était une dame, et qui, à cause de cet incendie, des problèmes de l'émoi que ça avait suscité dans les communautés du Cameroun, et pensait enfin à mettre en place une politique de conservation du patrimoine, s'intéressait de nouveau au musée national, qui était envahisseuse depuis des années. Donc j'ai discuté avec madame le ministre, et la conclusion, c'était qu'elle voulait que je mette en place un programme de formation. Et tout de suite, je lui ai dit, madame, il faudrait que vous recrutez 5 ou 10 personnes. Et puis, nous allons les accompagner, leur indiquer les formations nécessaires, les endroits où ils peuvent, comme ça, vous aurez une équipe dans quelques années capable d'affronter la situation. Mais c'était lui demander de la montagne, ça. Parce que demander à un ministre, hier comme aujourd'hui, en Afrique, un ministre de la Culture, d'ouvrir 5 ou 10 postes, je crois même en France, c'est lui demander d'aller devant le ministre des Finances, qui va, j'étais sûr, va le regarder de travers, l'équivalent de Bercy dans nos pays, pour lui dire, écoutez, vous n'imaginez pas les restrictions budgétaires, on ne peut pas ouvrir 10 postes, etc. Donc, elle était toute triste, je lui ai dit, bon, que si elle ne pouvait pas faire ça, malheureusement, on ne peut pas se contenter de solutions comme ça à la va-vite, qu'il fallait des hommes et des femmes pour travailler et qu'elle avait besoin de ces ressources. Donc, je n'ai pas été très utile pour cette partie publique qui concerne en fait les musées publics du Cameroun. Ce disant, je suis rentré en contact avec la chefferie Bamileke de Bandioune. Et puis, j'ai été voir, j'ai trouvé les lieux en tant que conservateur, restaurateur, fait l'analyse de la situation, et puis, bon, j'ai discuté avec le sultan de l'époque, qui était très intéressé, quelqu'un, un ingénieur de formation, qui s'est retrouvé là, sultan, il y en a souvent au Cameroun, chef, il a été désigné. Et puis, bon, il dit, ils avaient une association de chefs traditionnels, Bamileke, bon, il dit, il va aller consulter. J'ai dit, j'aimerais rencontrer l'ensemble des chefs, et puis discuter avec eux, parce qu'à l'époque, c'était une question très importante. Les chefs traditionnels camerounais étaient, surtout les Bamileke, qui ont des collections, on va en parler tout à l'heure, tout de suite, importantes, étaient accusés de trafic, de vendre, etc. Il y avait de faux certificats qui portaient leur signature, qui disaient donc ils étaient mal vus et ils vivaient ça très mal, alors qu'ils n'en étaient pour rien. Donc, ça s'est fait tout doucement. Un an après, ils m'ont invité à un séminaire où il y avait une vingtaine, un peu moins, 18 chefs traditionnels de Bamileke, à Limbé, dans l'Ouest Cameroun, et dans un grand hôtel, avec leur cour. C'est la première fois qu'il y avait autant de chefs ensemble pour un séminaire comme des doctorants ou des étudiants. Donc, je devais leur parler de leur rôle en tant que tuteur sur le patrimoine. Moi, un fonctionnaire, de leur parler à ces chefs traditionnels-là. On a fait 3 jours ensemble, ça a été des moments extraordinaires où on a discuté de ce que c'était, de leur rôle, de leur mission, etc. En partant de quelque chose de tout à fait simple que j'ai utilisé depuis un peu. Notre code de déontologie des professionnels du Conseil international des musées pris quelques parties dedans pour échanger, disons, avec eux. Ils étaient tous gardiens d'objets, de collections, etc., qui servaient dans leur coutume, dans leur tradition, qui sont encore très vivaces, hein, dans l'Ouest, Cameroun. Et puis, je leur ai dit que pour aller plus loin, pour qu'ils assurent, qu'ils garantissent la pérennité de ceux dont ils sont les gardiens, il fallait qu'ils aient à côté d'eux des gens formés, qui soient un peu leurs représentants, leurs oreilles et leurs yeux, et leurs mains aussi, pour assurer la conservation des objets, que ça a besoin de soins particuliers. Et que nous, en tant qu'École du patrimoine africain, une fois encore, on était prêts à accompagner la formation de ces gens qui nous désigneraient. À la sortie de cela, j'ai eu une vingtaine d'étudiants camerounais et les chefferies étaient prêtes à payer leurs bourses, leurs études, etc. Il faut comparer avec la situation au niveau de l'État camerounais. Le ministère de la Culture n'était pas capable de recruter 5 personnes et les chefferies, à ne rien de temps au Cameroun, m'ont envoyé une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, dans le tissu des professionnels au Cameroun, vous verrez, ce sont ces gens-là, les nouveaux conservateurs qui sont dans les musées. Ça a donné après ce qu'on appelle maintenant les cases patrimoniales, où ils ont décidé, la route des chefferies, de faire ces cases patrimoniales avec des normes pour assurer la sécurité, la pérennité des objets dont ils sont les gardiens, qui ressortent pendant leur tradition, leur coutume, et qui ne soient plus victimes des flammes comme le palais du sultan dans sa case avait brûlé. Donc cette expérience continue et il continue de vouloir former, etc. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est au Ghana. Au Ghana, évidemment, on connaît Accra, le musée national et toute la structure du musée national, je connais très bien, le Ghana National Museum Board. Un jour, une amie ghanéenne, Abena Bouzia, que certains peut-être connaissent, qui est poétesse ou poète, écrivain ou écrivaine, et m'a dit, Alain, il faut que tu viennes, moi je suis de Kumasi, tu t'arrêtes tout le temps à Accra, il faut que tu viennes voir le palais royal de Kumasi. Il y a des collections, on a des problèmes de collection. Et c'est dans ce palais qu'il y a le trône d'or des Ashanti. Trône d'or, le golden stool que les Anglais ont cherché à prendre par tous les moyens. Donc Abena, qui était aussi enseignante à Rutgers, université aux États-Unis, est descendue à Porto Novo, m'a dit, donc on a fait l'expédition, on est allé à Kumasi, au Mansion Palace, à l'intérieur du palais royal de Kumasi, qui est un musée moderne, un établissement moderne, qui a peut-être même plus de moyens que le musée national à Accra. Et à l'intérieur de ce musée moderne, qui est très visité à Kumasi, encore que Kumasi, c'est très loin, il faut 2 heures, 3 heures de route quand on quitte Accra pour arriver à Kumasi. Donc, à la fin, après cette partie des collections du musée normal, maintenant, le chef, le roi et sa cour m'ont dit, ils ont des collections anciennes qu'il faut que je vienne voir. Ça, ils ne le montrent jamais. Mais exceptionnellement, grâce peut-être à l'entrée et à la volonté d'Abena Bouzia, ils m'ont dit, bon, on vous fait confiance, il faut que vous veniez voir, que vous nous donniez des conseils. Effectivement, j'ai été introduit dans cette collection extraordinaire. Je n'ai jamais vu rien d'aussi beau en Afrique sur les textiles. Je crois que là, mais il faut dater, il y a des textiles qui datent du XVIIIe siècle, qui sont le tissu à chantilly, etc., à différentes époques, d'une beauté extraordinaire. On voit aussi les échanges, parce que les textiles en soie que j'ai vus, je ne pense pas qu'ils aient été fabriqués sur place, mais il y avait ce sens de garder là, et ils étaient conscients que c'était une richesse qui appartenait à la royauté. On m'a dit que le trône d'or était là, si je voulais voir. J'ai dit non, je ne voulais pas voir. Et j'ai aidé à travailler, à créer des conditions, pour le dire, bon, les conditions modernes de conservation, il faut arranger, il faut. C'est un endroit où il y a des moyens énormes, donc vous mettez les moyens qu'il faut, conseiller, faire les plans, etc. Et ils l'ont fait. Et Abena Bouzia, aujourd'hui, pour la petite histoire, c'est elle, l'ambassadeur du Ghana au Brésil. ça se fait encore, des écrivains qui sont ambassadeurs, et c'est une femme. Depuis 2 ans à peu près, depuis le président Ado, disons, il y en a. Et je fais le lien entre les relations de ce musée, cet endroit-là, gardien de biens, et le musée national public à Accra. Et le même lien entre les casses patrimoniales au Cameroun et le musée national de Yaoundé. Et je peux dire que, aussi bien les chefs traditionnels camerounais, les chefs Bamileke, les sultans, que ce qu'ils appellent le Mensha, c'est-à-dire le roi Ashanti et Sakou, ne veulent que leur collection aille au musée national. Il y a une méfiance énorme entre cette partie du patrimoine qui a des détenteurs et l'autre partie qui est aux mains de l'État, qui est censé être en quelque sorte le garant et le gérant des collections. Je retrouve cette même méfiance, en quelque sorte, de façon générale, entre l'administration des États modernes en Afrique et les citoyens, qui est le même type de méfiance qu'il y a entre les États africains post-coloniaux et la puissance est-colonisateur. Qui a cette relation de méfiance, on ne se fait pas tout à fait confiance, on est sur le même terrain, mais bon, on garde ces choses, on ne veut pas lâcher, etc. À quoi c'est dû? Je crois que la question est ouverte. Je reviens maintenant au pays qui est le mien, le Bénin, où j'ai aussi beaucoup travaillé. Ces questions se posent. Entre-temps, en tant que directeur de l'École du patrimoine africain, nous avons observé l'expérience de ce qu'on a appelé les banques culturelles au Mali. Et c'est l'École du patrimoine africain qui l'a diffusée en Guinée, Conakry, au Bénin même et au Togo, qui sont des expériences pour que les communautés qui, sous l'emprise de la pauvreté, veulent se débarrasser des objets témoins de leurs us et coutumes, puissent les déposer et prendre un prêt de microcrédit. Certains connaissent bien ce phénomène-là, disons des banques culturelles. Et quand nous avons réfléchi au Bénin à la question, et je vais m'arrêter là, nous avons dit qu'il est temps qu'on donne un statut aux collections béninoises. On les appelle les collections nationales, dans lesquelles, juridiques, dans lesquelles il y a les collections publiques qui appartiennent au musée public, qui doivent avoir une statue à part. Et les collections qui appartiennent aux institutions publiques étrangères où qu'elles soient, comme par exemple le Quai Branly. Et des collections qui appartiennent à des privés, à des particuliers, mais qui sont d'origine béninoise. Et qu'on donne une forme de statut reconnu par l'État qui puisse, à certains moments, faire appel à ces collections pour ses chercheurs, pour ses études, pour éventuellement ses expositions. Nous sommes là dans la réflexion en ce moment, et je dirais, pour conclure, que pour moi, musée ou pas musée, c'est une question à verser dans les opportunités pour réconcilier l'État africain moderne avec ses citoyens, et c'est une question aussi à verser dans le panier des opportunités pour réconcilier les ex-colonisés et les ex-colonisateurs. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Simon Godenou, pour cette communication qui nous rappelle qu'il y a d'autres acteurs que les États et les musées, et que nous serions bien inspirés de nous poser la question de qui est bienvenu autour de la table. Et en l'occurrence, à partir de vos exemples du Cameroun et du Ghana, la société civile, les communautés locales, voire les autorités traditionnelles, qui ont sans doute quelque chose à dire si la conversation leur était ouverte. Comment fait-on pour... Alors oui, on peut peut-être commencer. Bah, d'abord, si parmi vous, Kader, Simon et Alain, il y a des... Si vous voulez réagir les uns sur les communications des autres, en attendant que les questions dans le public mûrissent et que des mains se lèvent.
Moi, j'aimerais faire une remarque.
approuver votre remarque, Simon, sur les groupes, les sociétés Bamileke et comment finalement la réaction. Ah pardon, je suis désolé, Simon. On parlera après, Simon, toi et moi on se connaît. Je te ferai des questions en privé. Mais je ne connais pas monsieur et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a décrit parce qu'il m'a rappelé effectivement notamment un voyage dans un pays qu'on ne va pas souvent en fait en Afrique, qui est le Malawi, et où, grâce au professeur Moya Malamoussi, que je salue ici, j'ai pu accéder à la société secrète des Niao, sur laquelle il a écrit son doctorat, tout ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans votre remarque, donc ce n'est pas une question en fait, c'est plutôt les esprits sont là. Voilà. Vous voyez ? Ils approuvent. Comment, finalement, la lenteur que vous avez décrite au niveau du ministère et, finalement, du système public, la lenteur en termes de réactivité par rapport à ces questions, pour moi, est aussi caractéristique d'une des problématiques de la restitution, dans la mesure où, que ce soit à Lubumbashi, à Abidjan, évidemment à Dakar, et je vais vous donner un exemple extrêmement intéressant, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais Alger, où il n'y a pas de musée d'art ancien d'Afrique, mais une collection, la collection qui a appartenu à Savornian de Brazza, en fait, qui est mort à Alger. Et juste après l'indépendance, il y a eu un conseil de l'Union africaine à Alger, avec tous les ministres de la culture, où le gouvernement, enfin le ministre de la culture algérien de l'époque, a dit « Bon, ben, que chacun prenne les objets qui reviennent à sa culture et reparte au pays. » Et à l'unanimité, il a été voté que non, que cette collection reste à Alger, à une condition, que Alger construise le musée de l'Afrique. Voilà, on y est encore. Hein. Vous voyez, on y est encore. Hein. Et une formidable directrice de cabinet, il y a quelques années, m'avait dit que Niemeyer, l'architecte, juste avant sa mort, a fait un croquis en disant « ça sera ça, le musée ». Mais vous voyez, l'exemple africain, il est toujours le même. C'est pour ça que je trouve très intéressant votre exemple, notamment de cette société Bamileke, d'abord dont on admire l'art, hein, ou en tout cas l'esthétique, et cette réactivité qui prouve qu'on a beau être chef coutumier, et on peut être encore plus contemporain que les gens qui nous gouvernent, en fait. Et plus réactif, surtout. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que la science et cette hégémonie de la science a eu beau écraser en permanence les structures traditionnelles de guérison. Ça existe toujours et ça existera toujours, et par des circuits de détour, elle se réapproprie cela. Vous disiez tout à l'heure que la vingtaine d'étudiants sont aujourd'hui en activité à Yaoundé ou à Douala, c'est ça ?
Disons dans tout le Cameroun, quand on les retrouve souvent aujourd'hui, c'est ceux qui sont en poste dans un certain nombre de musées au Cameroun, en quelque sorte.
C'est formidable.
Et j'ai envie de citer un pape, je ne sais plus lequel, celui qui disait « n'ayez pas peur ». Parce que j'ai le sentiment souvent que le lavage de crâne a tellement bien fonctionné que les gens ont peur de leurs ombres. Ces objets, nous en avons parlé, nous savons leur puissance mémorielle, etc. etc. Mais nous savons aussi que les Africains ne sont pas morts. Et qu'ils ont continué à réinvestir d'autres objets, d'autres puissances et d'autres pouvoirs. Et que l'essentiel de cette restitution-ci est politique. Et quant à se demander jusqu'à quel point on est ou on n'est pas totalement lobotomisé, je me souviens d'une conversation avec Sangor qui me parlait de... je lui dis, mais pourquoi vous êtes catholique ? Je suis catholique parce que j'ai été baptisé. Je lui dis, mais votre père ? Il dit, mon père, À un moment, on lui a dit que pour le commerce, c'était bon d'être catholique, donc il s'est fait baptiser. Mais il faisait tout ce qu'il fallait normalement par ailleurs. Donc le dimanche, il allait à l'église, puis il allait dans la forêt sacrée. Donc il y a aussi une puissance, et c'est peut-être ça qu'a réussi l'industrie coloniale. Il y a une puissance avérée en Afrique qui est là, et que la puissance coloniale a réussi à effacer, non pas de manière réelle, mais dans la tête des gens, qui se prennent vraiment pour moins forts qu'ils ne sont, alors qu'ils sont là. Je vais en finir sur une anecdote. J'avais été invité à un colloque, c'était formidable. C'était « Peut-on être vivant en Afrique ?» C'était l'Institut Diderot qui faisait ça. J'arrive, je me dis « Bon, quel drôle de truc !» J'ai demandé à une assistante de me donner le taux de suicide du Japon, de la France, etc. Alors, se poser la question « Peut-on être vivant en Afrique ?» Mais si on ne peut pas être vivant en Afrique, où ? On a eu les 7 maladies, on a eu les Anglais, on a eu les Portugais, on a eu la peste, le choléra, le typhus, et on est toujours là. Alors quand même, ce qui m'intéresserait, c'est que les Africains se rendent compte parfois un peu plus de leur puissance.
Merci beaucoup.